Vous êtes sur RTL.
RTL Midi avec Olivier Bois.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce RTL Midi du samedi 10 juillet. C'est un jour de grand départ. Aujourd'hui, la journée est classée rouge par bison futé dans le sens des départs évidemment. On va faire un point d'ailleurs dans un instant sur vos conditions de circulation. Bientôt les vacances donc pour des milliers d'entre vous. Patience et prudence sur la route. On le rappelle, on va aller faire un tour dans un instant sur l'aire de repos de Sestas en Gironde. Comment faire en sorte que le variant Delta ne vienne pas gâcher nos congés? L'inquiétude est là. Sa propagation est en tout cas très rapide. Il est d'ailleurs désormais majoritaire en France. On verra région par région qui sont les plus touchés actuellement. Dans ce journal, on sera avec le maire de Saint-Malo, Gilles Lurton, qui doit gérer comme tous les ans une arrivée massive de touristes, ce qui crée parfois des tensions, d'autant plus dans ce contexte sanitaire alourdi. Et puis RTL sur la route du Tour, 183 km aujourd'hui entre Carcassonne et Quillan et pas mal de difficultés au programme. La météo, bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Toujours assez pluvieux. Hein.
Oui, c'est vrai, gris, pluvieux déjà sur tout le nord-ouest, la grisaille qui a déjà atteint la région parisienne des Hauts-de-France, la pluie aussi, il va progressivement gagner le reste de la moitié nord. Elles seront parfois orageuses, ces averses orageuses qui arrivent cet après-midi, hein. Surtout entre les Hauts-de-France, la région parisienne, la Bourgogne, orages qui passeront rapidement, mais qui pourrait être localement fort avec de forts cumuls de pluie. Si vous voulez du soleil, direction le sud, où il brille déjà et brillera généreusement tout l'après-midi de l'Aquitaine à la région Rhône-Alpes jusqu'en Corse. Demain, on aura une accalmie. Il faudra en profiter. Hein. On aura du soleil quasiment partout, sauf sur le nord-est. On en profitera parce qu'à partir de lundi, le temps sera à nouveau bien perturbé partout, sauf près de la Méditerranée. Et ça, jusqu'à jeudi. Les températures assez douces ce matin, ça ne va pas beaucoup grimper sur la moitié nord cet après-midi. 17 à Cherbourg, 21 à Lille et Paris, 23 à Bourges. On aura quand même un 25 degrés à Metz, 27 même à Mulhouse avant l'arrivée des averses. Et pour la moitié sud, là, les températures sont plus estivales, on peut le dire. Avec une moyenne de 24 à Bordeaux jusqu'à 31 degrés pour Marseille.
Merci beaucoup Céline Dacosta.
RTL Midi. Olivier Bois.
Allez, avant d'aller voir quelle est l'humeur du jour des vacanciers en route, je vous le disais, sur l'aire de Sestas en Gironde. On va donc faire un point sur vos conditions de circulation. C'est rouge aujourd'hui dans le sens des départs. Et Sarah Loubacouche, on vous retrouve, c'est déjà très dense. Hein.
Oui Olivier, ce rouge il est bien mérité puisque pour l'heure on cumule plus de 1100 km de bouchons sur les routes. Plusieurs points de grosses difficultés, notamment si vous vous dirigez vers le sud-ouest du pays en direction de la capitale girondine et au-delà. C'est très compliqué sur la 10. Dès que vous vous engagez sur l'Aquitaine, vous rencontrez les premiers coups de frein. En tout, vous mettez 1h30 de plus que d'habitude pour aller du péage de Saint-Arnoult à Poitiers. Comptez quasiment 4h pour ce trajet. Ce sera tout aussi délicat à Bordeaux pour s'insérer ou pour quitter la rocade, notamment si vous filez vers des horizons basques avec la 63. Bon courage à tous sur la route.
Merci, merci beaucoup Sarah Loubacouche. On vous retrouve tout à l'heure à 13h. La journée est donc très longue pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui sur la route. On parlait de l'autoroute A10 d'ailleurs à l'instant. On va retrouver Juliette Chénion sur l'aire de Sestas en Gironde. Juliette, vous y êtes depuis très tôt ce matin. C'est l'heure du pique-nique là pour les vacanciers.
Depuis 2 heures, les tables de pique-nique se remplissent. Petit déjeuner tardif pour Yvon, son fils et ses petits-enfants. Ils sont partis de Cholet et vont dans les Landes.
On essaye toujours de prendre un petit déjeuner après Bordeaux. C'est notre petite routine habituelle.
Et nous allons à Saubion, dans un superbe camping, pour que les petits-enfants puissent profiter de la piscine et des toboggans en piscine.
J'adore la piscine et la plage aussi. Ouais, bah oui, le surf aussi, j'avais oublié. Ouais, je suis content.
On verra si les conditions le permettent, on fera un saut en Espagne, mais c'est pas sûr avec la pandémie. Donc ça, c'est en option, mais pas validé.
Sur l'aire de Sestas, ils sont nombreux à partir dans les Landes. C'est le cas de Sébastien qui ne s'inquiète pas vraiment du variant Delta majoritaire là-bas.
On n'est déjà pas parti l'année dernière à cause du Covid, donc on va mettre le masque, on est vacciné, on fera les gestes barrières, mais il faut pas s'arrêter de vivre pour ça. Voilà.
Faire attention au virus et se faire plaisir. Ce sera l'équation à résoudre pour ces vacanciers qui sont à quelques heures de l'arrivée.
Merci beaucoup Juliette Chénion et bon courage donc à vous qui nous écoutez en voiture. Patience et prudence, les vacances sont bientôt là. RTL, il est midi de 35. Malheureusement, en plus d'une météo capricieuse, l'ambiance de notre début d'été est un peu alourdie par la situation sanitaire qui s'aggrave à nouveau en France. L'épidémie progresse. On a eu à nouveau hier presque 5000 nouveaux cas détectés. Le variant Delta ou variant indien est maintenant majoritaire en France. Quelles sont les régions les plus touchées, Virginie Garin ?
Eh bien, en fait, le variant Delta est largement présent sur tous les lieux de vacances. Il représente plus de 80% des nouveaux cas dans le Var, les Alpes-Maritimes, dans les Landes, plus de 50% dans toute la région PACA, la Normandie. Il se développe très vite en Bretagne. Il est aussi en montagne, près de 90% des cas en Haute-Savoie. Les régions les plus touchées par l'épidémie, tous variants confondus, sont, en plus de l'Île-de-France qui est largement devant, PACA, l'Occitanie, l'Aquitaine. Donc partout où vous irez, il faudra faire attention. En Outre-mer, la situation est encore plus compliquée. Les taux d'incidence sont 5 fois plus élevés qu'en métropole, en Guyane, à La Réunion. Aux Antilles, il y a beaucoup de cas en Martinique et encore très peu en Guadeloupe. Donc il est interdit de voyager entre les deux îles, sauf motif impérieux. Et si vous allez aux Antilles depuis la métropole, il faut un test négatif. Et si vous n'êtes pas vacciné, vous devez vous isoler de toute façon pendant une semaine. Enfin, rappelons que pour aller en Corse, il faut présenter le pass sanitaire.
Merci beaucoup Virginie Garin, spécialiste santé ici à RTL. À propos des différences entre régions, le Conseil scientifique préconisait hier d'envisager des mesures de restriction en fonction des situations locales. On sait qu'Emmanuel Macron prendra la parole lundi soir à 20h. Il lancera certainement à nouveau un appel à la vaccination. Selon le Conseil scientifique, toujours 50% des personnes en situation d'obésité ne sont toujours pas vaccinées par exemple. Et ce matin, l'Académie de médecine a rendu un avis et préconise de son côté de rendre la vaccination obligatoire pour toutes les personnes au-dessus de 12 ans. Le variant Delta qui se propage très vite chez les 15-44 ans, de quoi inquiéter alors que précisément les discothèques ont rouvert hier soir. La soirée a été parfois plus compliquée que prévu. Les personnels ont eu du mal par exemple à contrôler parfois les QR codes des passes sanitaires. Et puis il y a évidemment cette inquiétude. Les établissements vont-ils rester ouverts vu le contexte de reprise épidémique? De nouvelles fermetures seraient une catastrophe en tout cas pour un secteur déjà sinistré, Nerissa Emani.
Oui, 10% des discothèques françaises ont définitivement fermé depuis le début de la pandémie. Dans le détail, 160 gérants ont déposé le bilan, 54 ont tout bonnement décidé d'arrêter le métier. Un chiffre qui risque d'augmenter dans les mois à venir, car en ce moment, 150 propriétaires sont en règlement judiciaire, dernière étape avant la liquidation, et les syndicats estiment que 3/4 de ces entreprises feront faillite. En attendant, jusqu'à la fin du mois d'août, les boîtes de nuit fermées bénéficient toujours des aides de l'État. D'une part, le fonds de solidarité, de l'autre, l'aide au coût fixe qui permet de couvrir 90% des charges d'une entreprise de moins de 50 salariés. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas rouvert leurs portes hier. 80% des établissements, selon les syndicats, ils donnent 3 explications. Des mesures sanitaires contraignantes pour entrer en boîte de nuit, une période de vacances moins propice et un manque de personnel.
Merci beaucoup Nerissa Emani. Et à propos de l'inquiétude sur le variant Delta, sachez qu'en Espagne, la Catalogne a décidé de fermer à nouveau les boîtes de nuit. Même décision aux Pays-Bas. Ça rentre en vigueur donc à partir d'aujourd'hui. On va faire une pause. Dans un instant, on est avec le maire de Saint-Malo, Gilles Lurton. Les touristes sont donc en train d'arriver. Comment va-t-il gérer justement cette situation sanitaire qui se complique? On lui pose la question. À tout de suite sur RTL.
RTL Midi. RTL Midi avec Olivier Bois.
Il est midi 40 sur RTL, la suite de votre journal. Et comme promis, on est en ligne en direct avec le maire de Saint-Malo, Gilles Lurton. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On va parler de la saison touristique, évidemment, qui commence pour vous. Dans un contexte sanitaire, on vient d'en parler, qui est alourdi. Est-ce que la situation vous inquiète, vous, en tant qu'élu local?
Bah, écoutez, elle est toujours inquiétante, évidemment, hein, mais c'est maintenant une situation à laquelle on a un petit peu l'habitude depuis le mois de février dernier. Nous avons eu un très beau temps à Saint-Malo au mois de février, avril, mai. Moins beau fin juin, début juillet, c'est vrai. Mais beaucoup de monde est venu à Saint-Malo pendant toute cette période pendant les 6 premiers mois de l'année, pendant lesquels on était aussi en crise sanitaire, et nous avons mis en place des mesures assez exceptionnelles que l'on met en place d'habitude plutôt l'été, depuis déjà le mois de février, pour faire face aux difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés.
Et vous avez décidé de maintenir obligatoire le port du masque chez vous, en tout cas dans le cœur de la ville de Saint-Malo? En extérieur.
Alors voilà, dans la vieille ville, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intramuros, c'est à l'intérieur des remparts et sur les remparts. En fait, c'est un arrêté du préfet qui oblige au port du masque, mais moi, je ne m'y suis pas opposé parce que je pense que l'espace est très clos. Il y a beaucoup de monde à circuler dans les rues pendant la période estivale, pendant les grands week-ends de l'année aussi, et je trouve que cette situation justifie que l'on prenne des précautions particulières dans ce secteur.
Et sur la campagne de vaccination, on sait que les règles ont été assouplies puis avec la possibilité de se faire vacciner sur son lieu de vacances. Est-ce que là encore, vous avez adapté votre dispositif? Est-ce que vous avez des doses supplémentaires, des places supplémentaires?
Alors, au niveau place, nous n'avons aucune difficulté. Notre centre de vaccination, notre centre de test aussi, est parfaitement adapté à une affluence supplémentaire et nous savons faire face à ce type de difficultés. Nous avons un personnel soignant, un personnel infirmier et de médecins extrêmement dévoués et prêts à travailler au centre de vaccination. Le problème que nous avons, c'est que les doses ne sont pas si nombreuses que ça. La semaine dernière, nous avons constaté une diminution assez importante du nombre de doses qui nous étaient allouées. Et c'est vrai qu'on pourrait vacciner beaucoup plus de monde, mais aujourd'hui, c'est le produit qui ne suffit pas.
Est-ce que vous avez l'impression que les touristes qui sont chez vous viennent se faire vacciner ou ça n'est pas encore dans les habitudes de ceux qui sont arrivés pour la saison là ?
Alors, j'ai pas encore suffisamment de recul sur la saison pour vous le dire, mais j'ai pas le sentiment pour le moment que l'affluence de touristes entraîne une augmentation du nombre de demandes de rendez-vous. Le nombre de demandes de rendez-vous sur Doctolib est plein en permanence. On ouvre les créneaux qu'on peut ouvrir en fonction du nombre de doses dont nous disposons. Nous avons toujours des demandes de rendez-vous. Mais j'ai pas le sentiment, si vous voulez, que l'affluence touristique ait engendré une augmentation massive du nombre de demandes de vaccination.
Et justement, sur l'arrivée massive de touristes, évidemment, vous êtes concerné. Je lisais hier dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France, l'un des présidents d'un de vos comités de quartier disait que la ville était particulièrement asphyxiée en ce moment et qu'il y avait des problèmes de tension, notamment sur la circulation. Est-ce que c'est un problème qui est accentué cette année avec plus de vacanciers chez vous ?
Alors écoutez, jusqu'à présent, bon, je pense que les vacanciers vont beaucoup arriver pendant ce week-end-là. Ouais. La semaine dernière, d'abord il n'a pas fait beau, et ensuite je n'ai pas eu le sentiment que les vacanciers étaient véritablement arrivés. Moi j'ai connu un week-end de tension sur la circulation au mois de juin, au début du mois de juin, qui a été conjugué avec une course pédestre qui a un petit peu bloqué et embolisé les abords de l'intramuros. Mais là actuellement, je ne vois pas où est la tension sur la circulation. Je circule tous les jours aux abords de l'intramuros, je circule tous les jours dans la ville. Actuellement, il n'y a pas de tension. Je pense que nous allons en avoir un petit peu cet été, mais c'est traditionnel à Saint-Malo pendant l'été.
Et une dernière question, monsieur le maire, on va en parler dans un instant. La préfecture du Nord a décidé d'annuler les feux d'artifice, justement pour éviter les rassemblements. Quelle est, vous, votre décision ou quelle va être la décision des autorités compétentes là-dessus dans votre département?
Alors, si vous voulez la décision pour prévoir un feu d'artifice, il nous faut le prévoir largement en avance et au moment où nous avons discuté de ces sujets-là, c'était encore une période où les feux d'artifice étaient interdits jusqu'à une durée indéterminée. Nous ne savons pas qu'à partir du mois de juin, ils pourraient être autorisés dans certaines conditions. Donc le feu d'artifice n'a pas été prévu cette année à Saint-Malo, mais de toute façon, le feu d'artifice à Saint-Malo attire une foule énorme. C'est 40 à 50 000 personnes qui se regroupent sur les bords de mer dans des endroits très très concentrés et je pense qu'il aurait été tout à fait imprudent de le faire. Donc il n'y aura pas de feu d'artifice à Saint-Malo cette année, comme d'ailleurs j'ai remarqué dans de nombreuses autres villes de notre département.
Effectivement, merci beaucoup Gilles Lurton d'avoir été l'invité de RTL Midi. Je rappelle que vous êtes le maire de Saint-Malo et on vous souhaite un bel été évidemment. À bientôt sur
RTL. Merci à vous. Au revoir.
Et justement, on vient de l'évoquer, on va partir dans le Nord où donc la préfecture a décidé d'interdire les feux d'artifice. Et la déception est plutôt grande pour les habitants. C'est ce que vous avez constaté, Samuel Duhamel, à Lambersart, à côté de Lille.
Oui, Nicolas Bouche ne décolère pas. Voilà un mois que le maire de Lambersart et son équipe préparent le feu d'artifice de la ville. 9000 euros ont été engagés pour l'organisation de la soirée. Mais la préfecture du Nord a tout annulé hier, au grand dam de l'élu.
Je ne comprends pas cette décision. Alors moi, je suis maire, bien sûr, mais avant tout, je suis psychiatre, médecin psychiatre. Et je n'ai jamais vu aucun article scientifique qui prouve qu'il y a contamination quand on est dehors masqué. Jamais.
Les habitants rencontrés ce matin soutiennent leur maire et déplorent la décision de la préfecture.
Il y avait tout qui était organisé, justement, que d'habitude, ils faisaient le 13 et que là, comme ça avait été annulé sur l'île, ils voulaient le faire le 14 pour marquer le coup et que c'est bien dommage.
Le contexte n'amène que des déceptions festives, donc c'est vrai que c'est dommage, mais c'est comme ça.
Les gens, ils commencent à en avoir de plus en plus marre. Hein, la vie est de plus en plus difficile. Bon, le préfet a choisi la solution de facilité, à mon avis.
Lambersart n'est pas la seule ville concernée. La décision d'annuler les feux d'artifice du 14 juillet concerne les 95 communes de la métropole européenne de Lille, mais également la communauté d'agglomération de Maubeuge.
Merci beaucoup Samuel Duhamel. Bien loin de l'ambiance pétaradante des feux d'artifice, je vous propose une soirée tout en douceur. Hier soir au château de Chambord dans le Loir-et-Cher, le site propose des spectacles jusqu'au 17 juillet. Et hier soir, Christian Panvert, c'était un concert lecture avec la pianiste Vanessa Wagner et Arthur Hache.
Chapeau de feutre noir sur la tête, Arthur Hache, assis devant un pupitre, lit un poème de Rimbaud.
Merci. En mots, images, sons, chansons, merveilles de peintures invisibles.
Accompagné par la pianiste Vanessa Wagner, le chanteur savoure ce lieu chargé d'histoire.
Ce qui est touchant, c'est d'essayer d'imaginer des gens qui se sont donné des défis quand même vraiment remarquables. Quoi. Ça, c'est d'une beauté architecturale. Les plafonds, c'est 7 mètres de haut. Quand tu rentres, tu dis « waouh, ouais, c'est haut !» quoi.
Yannick Mercoirol est directeur de la programmation culturelle de Chambord. Selon lui, un château se doit d'être animé.
Défendre le patrimoine, conserver le patrimoine, c'est l'aider à continuer à être vivant. Nous sommes des gens du 21e siècle, donc nous visitons Chambord avec ce que nous sommes au 21e siècle.
Pour les touristes, ce concert lecture était l'occasion de découvrir le monument autrement.
C'était superbe. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'étais très émue même.
Toute la poésie, la musique, le lieu, tout se lit bien. C'est magnifique.
Ce soir, c'est un ensemble de tango argentin qui rend hommage à Astor Piazzolla dans la cour du château.
Merci beaucoup, reportage de Christian Panvert et donc ses spectacles au château de Chambord, c'est jusqu'au 17 juillet. Allez, on va partir sur la route du Tour de France.
RTL, Tour de France 2021.
Morad Djabari, c'est vous qu'on retrouve sur la moto RTL, l'étape du jour entre Carcassonne et Quillan. Le départ vient d'être donné, Morad ?
Oui, le départ de cette 14e étape a été donné il y a maintenant quelques minutes. On entame les premiers kilomètres de cette étape en pays Qatar de 183 km entre les vignes, les champs de blé, les champs de tournesol et les cinq côtes écoles jusqu'à Quillan, classées troisième et deuxième catégorie. C'est donc un parcours accidenté, assez casse-pâte comme on dit, parfait pour une belle échappée, de l'animation, un départ nerveux et du spectacle avec déjà des tentatives d'échappée et un peloton qui roule très vite sous un beau soleil et la chaleur plus de 30 degrés. À noter Warren Barguil, le grimpeur breton qui n'a pas pris le départ ce matin après une nouvelle chute hier. Il souffre du dos et de nombreuses contusions. C'est le début de cette 14e étape. Prochain point à 13h30.
Merci beaucoup Morad Djabari, à tout à l'heure. Et c'est toujours Tadej Pogacar qui porte le maillot jaune. On va faire une pause sur RTL et dans un instant, les plus belles routes de nos vacances avec Christophe Bourreau qui nous emmène aujourd'hui sur la célèbre Nationale 7. A tout de suite sur RTL.
RTL Midi. RTL Midi avec Olivier Bois.
Il est midi 52 sur RTL et tout l'été, Christophe Bourroux nous emmène à la découverte ou à la redécouverte de nos routes, celles de nos vacances les plus belles, les plus insolites. Et pour commencer aujourd'hui, direction la plus célèbre des nationales françaises, la fameuse Nationale 7.
Christophe Bourroux sur RTL, nos plus belles routes de vacances.
Lorsque l'on pense à la Nationale 7, immédiatement, c'est cette aire qui nous vient à l'esprit.
Nationale 7.
Mais à l'époque de Charles Trenet, et jusque dans les années 70, c'est surtout ça.
12 millions de Français ont fui les grands centres urbains au cours des dernières 24 heures pour gagner les plages ou la montagne.
Un flot ininterrompu de voitures, de caravanes, de camions pour descendre vers les plages du sud de la Côte d'Azur pour l'une des routes les plus empruntées en Europe l'été.
Le coup d'envoi des vacances d'été est donné. Beaucoup de voitures dans la galerie est bondée de valises, des caravanes et des bateaux à moteur tirés derrière des voitures.
On comptait à peu près dans les grands départs aux alentours de 20-25 000 voitures, ce qui était énorme. Hein.
Thierry Dubois est le grand spécialiste des nationales, auteur de plusieurs ouvrages sur cette route mythique qu'il connaît comme sa poche. Et c'est avec lui que nous allons remonter le temps à bord d'une vieille Peugeot 404 blanche.
Alors bienvenue dans cette Peugeot 404 de 1964, c'est le véhicule idéal pour faire la Nationale 7, hein. On a chargé les bagages, on a fait le plein, tout, il y a même la queue de tigre qui pend en rétroviseur. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, il fallait compter quand même 2 jours pour descendre toute la Nationale 7, avec comme objectif, dès le premier jour, au moins de dépasser Lyon, quoi, parce que il y a 996 km au total jusqu'à Menton, 150 communes à traverser, très peu de déviations, bref, on n'était pas arrivé à l'époque. Hein.
garages des stations-service pullulaient. Première étape à seulement 25 km de Paris. Rencontre avec Alain, 78 ans.
Salut Alain, comment vas-tu?
Très bien, merci. Merci.
Là, on a vraiment un enfant de la 7. Hein. Lui, il est né à côté, il a vécu à côté, il la connaît comme sa poche.
C'est vrai, c'est, la 7, c'est presque mon cordon ombilical.
Alain se souvient des voyages en traction avec ses parents et les premiers arrêts pour faire le plein.
Là, on est sur un petit bout de parking où il y avait, dans le temps, 6 pompes de chaque côté de la route. À l'époque, il y avait une énorme pompe à essence, donc avec les serveurs qui traversaient la route pour aller servir ceux qui remontaient du sud vers Paris. Cette station avait le plus fort débit d'essence de toute l'Europe. C'était le premier arrêt, peut-être, à 25 km de Paris. Et les pompistes étaient extrêmement serviables. Ils étaient en costume avec une casquette et on pouvait repartir en confiance.
Donc il y avait le service et puis il y a eu la mode à la fin des années 60 des cadeaux. Que ce soit, certains s'en souviennent, les santons, les glups, la conquête de l'air, des pièces, des petites choses qui faisaient qu'on allait plusieurs fois dans la même marque pour avoir toute la collection.
Voulez-vous un matelas pneumatique, un tapis de plage, des bouées pour les enfants ou même un dinghy avec ses rames? C'est tout simple, roulez super Fina. Les bonnes vacances commencent dans les stations Fina.
94 centimes le litre d'essence en 64, la voiture se démocratise et le commerce se développe avec tout au long de la nationale des pubs.
Alors ici, on est dans le centre-ville de Villejuif et il y a cette vieille publicité là pour les huiles Vidol qu'on voit, qui fait tout le pignon d'une maison. Aujourd'hui, on se plaint des panneaux 4x3, mais à l'époque, il y en avait partout, il y en avait même sur le toit des maisons.
Et rapidement, cette Nationale 7 appelait au voyage en passant sous un endroit très connu.
Ici, on arrive à Orly. Alors, on va passer sous l'aéroport d'Orly et sous les pistes de l'aéroport. À l'époque, cet aéroport qui était le plus moderne de France, les gens y allaient juste pour voir les avions. Il y avait les terrasses. Il y a même Gilbert Bécaud qui a chanté les dimanches à Orly.
À l'escalier, c'est bloc 21.
On venait voir juste les avions s'installer pour prendre un verre à la terrasse et regarder les avions qui arrivaient du monde entier, ce qui faisait vraiment rêver à l'époque.
Quelques kilomètres plus loin, maintenant, arrivé à un carrefour stratégique.
Oui, alors face à nous se dresse l'obélisque de Fontainebleau. C'est ici que les deux routes se séparaient. La Nationale 7 qui passait par le Bourbonnais et la Nationale 6 qui passait par la Bourgogne.
Et à l'époque, gendarmes et policiers veillaient au grain.
Sur des vieilles Peugeot 403, ils fixaient un compteur sur le capot et un appareil photo derrière le pare-brise. Et donc, ils suivaient quelqu'un, ils prenaient une photo, on voyait le compteur et la voiture de devant, ce qui permettait de déterminer sa vitesse. C'est les premiers contrôles de vitesse avant les radars.
Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on remonte dans la 404, qu'on fasse le chemin de la 7 et qu'on se retrouve dans le sud.
Oui, vers Brignoles, on devrait y être demain, ça sera bien.
Allez, c'est parti.
National 7.
L'histoire et l'aventure sur cette Nationale 7, épisode 2, demain que vous retrouvez devant RTL Matin avec Vincent Parisot à 8h20. Vous retrouvez évidemment toutes les chroniques en podcast sur RTL.fr ou sur l'application RTL. Une pause dans un instant, il sera 13h sur RTL, ce sera l'heure du rappel des titres.
RTL Midi,
Olivier Bois.
Et il est tout juste 13h sur RTL. Et je vous rappelle l'actualité du jour. D'abord, c'est très chargé sur les routes. Sarah Loubacouche, on vous retrouve. Vous accompagnez nos auditeurs depuis ce matin. On vient de passer le pic, là, pour le coup.
Oui, tout à fait, Olivier. C'était un peu après-midi. On avait atteint ce pic avec 1138 km de bouchons cumulés. Hein. Rien que ça, c'est pas le record, mais on n'en est pas loin. Le record, c'était en 2019 pour le week-end de la Pentecôte avec 1340 km cumulés. Bon, pour l'heure, on est redescendu sous la barre des 1000 km. Les zones de difficulté, elles, sont nombreuses en direction du sud-ouest sur l'A10, évidemment, mais c'est aussi compliqué et sans surprise dans la vallée du Rhône, sur l'A7. Vous êtes bien ralenti du sud de Lyon jusqu'à Orange. Comptez 3h30 pour ce trajet. C'est près du double du temps normal. Allez, on s'accroche, ça devient plus fluide quand on passe Montélimar.
Courage, courage. Merci beaucoup, Sarah Loubacouche. Une fois arrivé en vacances, il faudra être prudent. L'épidémie progresse à nouveau en France. Près de 5000 cas détectés hier. Inexorablement, le variant Delta s'installe. Il représente plus de 50% des nouveaux cas et il est particulièrement présent sur les lieux de vacances. 80% des nouveaux cas, par exemple, dans le Var, dans les Alpes-Maritimes ou encore dans les Landes. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron prendra la parole lundi et soir à 20h. Hier, le Conseil scientifique recommandait d'envisager de nouvelles restrictions en abaissant les jauges pour les événements soumis à un pass sanitaire ou en prenant de nouvelles mesures localement, on vient de l'évoquer, quand l'épidémie progresse trop vite dans certains territoires. L'Académie de médecine de son côté, préconise ce matin de rendre obligatoire la vaccination à partir de l'âge de 12 ans. Alors, on ne sait pas ce que dira le président de la République lundi, mais il lancera en tout cas à nouveau un appel à la vaccination. Toujours selon le conseil scientifique, 50% seulement des personnes en situation d'obésité seraient vaccinées aujourd'hui en France. Et l'organisation rappelle que l'épidémie ne pourra être contrôlée qu'avec 90 à 95% des personnes vaccinées ou déjà touchées par la maladie. Les discothèques ont rouvert hier soir en France, malgré donc cette reprise épidémique. Les professionnels restent malgré tout inquiets. Aux Pays-Bas ou encore en Espagne, en Catalogne précisément, les autorités ont décidé de fermer à nouveau tous les établissements de nuit. L'actualité sportive, la 14e étape du Tour de France. Le départ vient d'être donné entre Carcassonne et Quillan. 5 cols, 2e ou 3e catégorie au programme. Et c'est toujours Tadej Pogacar qui porte le maillot jaune. Et puis cet après-midi à 15h, c'est la finale dames de Wimbledon entre Ashleigh Barty et Carolina Pliskova. Demain, Novak Djokovic affronte l'Italien Berrettini, le Serbe qui peut gagner, on vous le rappelle, hein, son 20e titre du Grand Chelem et égaler ainsi Roger Federer et Rafael Nadal. La météo, on vous retrouve, Céline Dacosta.
Oui.
Toujours pour le même programme, ça n'a pas changé en une demi-heure.
Ouais.
Grisaille et pluie.
Ouais, on va commencer par le soleil.
On va commencer par le soleil, vous avez raison.
Tout à l'heure, on a commencé par la pluie, on va commencer par le soleil, puisqu'il est bien présent. D'ailleurs, on a entendu que les personnes qui étaient sur l'autoroute des vacances allaient le chercher. Il est bien présent sur la moitié sud depuis ce matin. Il va le rester tout l'après-midi, de l'Aquitaine jusqu'en région Rhône-Alpes et en Corse, avec une belle moyenne côté température, 24 à 31 degrés. Ça, c'est pour le sud. En revanche, c'est gris et pluvieux, vous avez raison, sur la moitié nord. Les averses présentes en ce moment sur tout le nord-ouest vont se décaler vers l'est. On attend des averses orageuses entre les frontières du Nord et la Bourgogne, des orages localement forts qui passeront rapidement, c'est vrai, mais avec de forts cumuls de pluie possibles, du vent, de la grêle. Donc prudence sur ce secteur, on sait que ces orages peuvent être impressionnants. Côté température, sans surprise, ça reste bas pour la saison, sous les nuages, 17 à 23 degrés. Un petit peu plus sur le Nord-Est avant l'arrivée de la pluie, avec 28 degrés à Strasbourg.
Merci beaucoup Céline Dacosta. C'est la fin de ce RTL Midi. Merci d'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h. Dans un instant, tout de suite même, on retrouve Jean-Alphonse Richard, les voix du crime avec l'affaire Grégory.